Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, tous les ans, la France fête, je devrais dire unanimement, avec un cœur immense, Sainte Jeanne d'Arc, sa patronne secondaire. Vous savez que la patronne, pas dire que l'Église n'aime pas les femmes, puisque la patronne principale de la France est la Vierge Marie dans son Assomption, et que les deux copatronnes secondaires de la France sont Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et Sainte Jeanne d'Arc que nous fêtons aujourd'hui. Sainte Jeanne d'Arc, une figure tout à fait mystique. Mais il ne suffit pas de marcher, il ne suffit pas de penser a priori que nous l'aimons. Je voulais vous inviter à réfléchir pour savoir si vraiment Sainte Jeanne d'Arc est un exemple mystique pour notre temps, c'est-à-dire est-elle vraiment une vraie mystique ? Pour savoir et répondre à cette question, est-ce que Sainte Jeanne d'Arc est une vraie mystique, donc un modèle pour nous, je vous invite à la passer au peigne fin des trois critères fondamentaux de la mystique, qui sont la cause formelle, c'est-à-dire le substrat de sa vie chrétienne, c'est sa cause matérielle, pardon, la cause formelle qui est la production des œuvres, et la cause finale qui est les conséquences de ces œuvres que sont la propagation de la foi. Comme vous l'avez vu, je vais vous inviter, après votre marche, à une petite marche spirituelle et intellectuelle. Alors j'examine ces trois points, ce sont les trois points de mon homélie. Le premier point, la cause matérielle, c'est-à-dire le substrat chrétien de la vie de Sainte Jeanne d'Arc. Je vais prendre deux points. A-t-elle eu une vie ascétique et a-t-elle connu des mortifications ? Ce sont deux éléments importants quand on examine la vie d'un mystique et on examine toujours cela en premier. D'abord, une vie ascétique, peut-être serez-vous déçu, primo primi, car Sainte Jeanne d'Arc a une dévotion on ne peut plus simple. Sa dévotion favorite, c'est Jésus Maria, ce qu'elle a fait inscrire sur son étendard, c'est-à-dire une dévotion qui s'est répandue au XIVe siècle suite à Saint Bernardin de Sienne, et on sait que Sainte Jeanne d'Arc fréquentait des franciscains. Et puis, on sait d'elle qu'elle aimait à se confesser, qu'elle aimait à ouïr la Sainte Messe et à communier. Bref, une vie de prière, on ne peut plus simple, on ne peut plus ordinaire. Pour nous, c'est peut-être déjà un exemple. Voyons le point de la mortification, toujours truculent et intéressant dans ce Moyen-Âge finissant, où on imagine bien entendu des jeûnes prolongés, le cilice des mortifications incroyables. Sainte Jeanne d'Arc n'a rien connu de cela, car elle ne vivait pas selon un ordre religieux quelconque, elle ne vivait pas selon une consécration religieuse, elle n'avait pas à suivre une spiritualité en particulier, elle était laïque, elle a suivi donc le chemin laïque, mais il est évident que celui-ci n'est pas exempt ni d'éveil, ni des mortifications, je pense que vous le savez, car elle portait une armure qui devait valoir bien des cilices, et elle a quitté sa bonne terre de Lorraine, belle et ensoleillée comme nous la voyons, ses moutons, bref, un endroit charmant et paisible, pour quitter son pays, ses parents, et se mettre à la suite du Christ pour aller guerroyer et d'abord trouver le roi. Et oui, c'est la condition essentielle du substrat chrétien d'une vie, c'est ce qu'on appelait au XIVe siècle la sequela Christi, la suite du Christ. Si vous ne vous mettez pas à la suite du Christ, si vous n'êtes pas prêt à tout quitter pour suivre le Christ, alors vous ne serez jamais mystique et peut-être même jamais chrétien. Voilà la première question à laquelle je pense avoir répondu. Deuxième question de la mystique. La cause formelle, comment Dieu produit des œuvres dans les mystiques ? Pourquoi est-ce qu'on se pose cette question ? Parce que dans les mystiques, Dieu doit éclater d'une manière toute particulière. Alors j'examine deux points particuliers, ce qu'on appelle la passivité et ce qu'on appelle l'ambiguïté. D'abord, la passivité. Alors attention, ces mots recouvrent des réalités théologiques qui ne sont pas les réalités ordinaires. Parce que, effectivement, la passivité, ne croyez pas que je sois un prédicateur quiétiste qui suis venu pour vous dire « ne faites rien et attendez que Dieu produise de bonnes choses en vous ». Non, ce n'est pas ce que je suis venu vous dire, car la passivité des mystiques, c'est tout l'inverse. C'est Dieu, peut-être, qui agit le premier, et c'est ça qui est éclatant, mais ils se mettent à leur suite. Il n'est qu'à de penser, par exemple, Sainte Thérèse d'Avila, une grande mystique qui, je crois, a parcouru des centaines de kilomètres à pied, qui a fondé plus de 15 monastères, qui a réformé son ordre. Bref, tout ce qu'on pense, sauf une femme, les deux pieds dans le même sabot, en train d'attendre passivement que le Seigneur fasse quelque chose d'elle. Eh bien, Sainte Jeanne d'Arc, c'est la même chose. C'est la passivité dont on parle, c'est évidemment une passivité d'initiative, car sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. C'est Dieu qui suscite et c'est nous qui coopérons. Et Sainte Jeanne d'Arc a été suscitée dans son action par les voix qu'elle a entendues, qui étaient d'ailleurs tout à fait, c'est pas tout à fait par hasard, il n'y a pas de hasard dans la providence divine. C'est Sainte Catherine et Sainte Marguerite d'Antioche qui lui sont apparues, et la particularité de ces deux saintes, c'est qu'elles furent toutes deux martyres, et que toutes deux, elles eurent à témoigner du Christ et à répondre devant de nombreux docteurs. Sainte Marguerite d'Antioche dut répondre de longues heures d'interrogatoire devant un gouverneur, et Sainte Catherine dut répondre pendant de longues heures à plus de 500 docteurs, dit-on, qui voulaient la confondre d'hérésie. C'est exactement ce qui arriva à Sainte Jeanne d'Arc. Elle n'avait pas décidé trop d'y aller, puisqu'elle a attendu 5 ans de ses voix pour se décider à partir, preuve que c'est bien Dieu qui l'a agi d'abord, et ensuite elle eut à rendre compte de sa foi d'une manière admirable devant de nombreux docteurs, d'ailleurs de l'Église du Christ qui était à Paris et qui, vraisemblablement, étaient tous hérétiques. Eh bien, il y a aussi, à part la passivité, il y a l'ambiguïté. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça que l'ambiguïté ? Il ne s'agit pas, pauvres modernes que nous sommes, de penser au doute cartésien qui étreint mon âme et qui me disent « est-ce que vraiment Dieu existe ou Dieu n'existe pas ?» Tout ça n'est que baliverne, car cela nous empêche l'essentiel, c'est-à-dire l'action. Et oui, ce pseudo-doute n'est pas le doute divin de l'ambiguïté. Le véritable doute divin, c'est ce qui me fait douter de ma propre qualité. Oui, je sais que Dieu m'appelle, oui, je sais que Dieu me demande de propager la foi, mais voilà, j'en suis indigne. Alors, est-ce que Sainte Jeanne d'Arc avait ce genre d'humilité ? C'est pas sûr, a priori. Je cite une petite phrase qu'elle dit à Dunant, le capitaine de l'attaque d'Orléans, lui qui avait décidé de remettre un petit peu car ils avaient déjà subi quelques charges et qui s'était dit « on va attendre un peu » et en ayant bien réfléchi avec ses propres lieutenants, et il fait savoir à Sainte Jeanne d'Arc qu'on n'attaquera pas demain mais qu'on attaquera plus tard. Et Sainte Jeanne d'Arc de lui répondre immédiatement « j'ai été à mon conseil, vous avez été au vôtre, croyez bien que le vôtre s'écroulera et que le mien se réalisera. » Alors, effectivement, il ne semble pas que Sainte Jeanne d'Arc fût empreinte d'une grande ambiguïté d'action au sens théologique que je viens de dire. Pourtant, elle est tout sauf une jeune fille qui compte en remontrer comme une prétentieuse qui pense savoir tout. On le voit bien, lors de son procès, c'est avec une humilité extrême et en se soumettant par avance à l'Église, pourtant là aux mains d'évêques peu scrupuleux et peu chrétiens qui vont la condamner. Et oui, Sainte Jeanne d'Arc ira même jusqu'à signer, c'est une grande question historique, une abjuration. A-t-elle vraiment compris ou n'a-t-elle pas compris ? Je pense qu'elle avait bien compris, elle a signé d'une croix, elle qui, bien que ne sachant écrire, savait écrire son nom. Voilà la deuxième question abordée, la cause formelle. A-t-elle été agie par Dieu ? Cela ne me semble pas douteux. Je vous ai réservé la dernière question car c'est la plus celle qui fait débat. La cause finale, est-ce que l'action de Sainte Jeanne d'Arc a eu pour effet la propagation de la foi ? Car si tel n'était pas le cas, elle ne serait pas une mystique du Christ. Effectivement, la difficulté qui se présente à nous, c'est qu'il semble que la vie de Sainte Jeanne d'Arc ait été toute tournée au désir de bouter les Anglais, de libérer un pays et d'établir un roi. Bref, une mission toute temporelle. Oui, mais voilà, je me permets de vous rappeler, il n'y a pas que des plus jeunes ici, je vais m'adresser aux plus anciens qui ont bonne mémoire, enfin des anciens comme moi, hein, qui peuvent s'en souvenir quand même. Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II aujourd'hui, lors de son premier voyage en Pologne, remettez-vous dans l'histoire, le rideau de fer, le communisme, la main tout à fait ferme posée sur les chrétiens, même les chrétiens de Pologne. Jean-Paul II fait un voyage en Pologne quasiment en catimini, enfermé dans la nonciature apostolique, mais le peuple chrétien se masse en milliers devant ses fenêtres. Et il était bien convenu que Jean-Paul II ne s'adresserait pas au peuple directement, mais seulement lors d'une messe avec une homélie, tout écrite et déposée au bureau des commissaires politiques. Voilà Jean-Paul II qui dîne et qui fulmine et qui se dit que son peuple entier l'attend. Eh bien, il prend conseil autour de sa table, c'est un des cardinaux autour de sa table qui m'en a fait la confidence, pas seulement à moi, hein, je vous rassure, qui en a fait la confidence. Autour de sa table, tous les doctes personnes qui se trouvent lui disent « Il ne faut pas y aller, nous avons un compromis, nous avons une manière de faire, nous sommes, les communistes sont là pour encore quelques millions d'années certainement, il ne faut pas risquer notre place, il faut rester bien tranquille et suivre la consigne. » Mais voilà, et cette consigne venait y compris de Mgr Casaroli, le secrétaire d'État, ce n'est pas n'importe qui dans un voyage du pape à l'extérieur. Jean-Paul II, d'un petit coup d'œil, regarde tous ses conseillers, regarde les deux ou trois qui se sont risqués à lui dire que le peuple l'attendait, et alors il sort sur le parvis de la nonciature, sur le balcon, je crois, pardon, de la nonciature apostolique en Pologne, et il s'adresse au peuple. Il leur demande de prendre au sérieux la liberté qu'annonce le Christ, de pouvoir annoncer toujours et partout, sans peur, même au prix du martyre, que le Christ est notre vie et le Christ est notre liberté. C'est à partir de là que va s'effondrer le système communiste en Pologne et qu'il sera que cette libération va s'étendre d'abord intellectuellement. Ce sont les années de libération de Solidarnosc qui aboutiront à la chute du mur de Berlin, qu'aucun politologue crétin et humain n'avait prévu. Et oui, c'est Benoît XVI qui le remarque en commentant la vie de Jeanne. Elle a les mains en plein dans la condition dramatique du temps et de l'Église. Elle n'a pas hésité, comme le dirait le pape François Ier du nom, pour l'instant, à aller aux périphéries, bref, à se mêler de la vie, la vraie, et à ne pas se cantonner aux bougies et aux sacristies. Mais pour ceux qui n'auraient pas lu le Concile Vatican II, car on nous le brandit sans cesse, sans l'avoir jamais parcouru, eh bien, il est clairement stipulé que c'est le rôle des laïcs d'apporter le Christ au milieu du monde afin de faire régner l'ordre du Christ, la paix du Christ, pour qu'advienne enfin la Jérusalem céleste. Alors voilà, c'est ce que dit Sainte Jeanne d'Arc au dauphin qu'elle rencontre. « Gentil dauphin, j'ai pour nom Jeanne la Pucelle et vous mande par le roi des cieux que vous serez couronné et sacré à Reims et que vous serez lieutenant du roi des cieux qui est roi de France. » Voilà la mission de propagation de la foi de Jeanne. Elle n'a pas hésité à faire régner le Christ en elle, pour le faire régner dans son pays, s'adressant immédiatement aux instances les plus grandes. C'est notre noblesse de coopérer à l'œuvre de Dieu dans ce monde pour que, avec le Christ, nous soyons co-rédempteurs, comme Jeanne l'a été. Elle a participé de la rédemption de la France, elle a participé de sa libération. C'est ainsi qu'elle est devenue une véritable mystique, non pas en se faisant oublier derrière un mur, mais en agissant, en priant et en coopérant à l'œuvre de Dieu. Il nous reste, nous, qui marchons et qui prions, à participer de cette société civile pour qu'elle devienne le terreau de la Jérusalem céleste, que nos âmes puissent vraiment participer de Dieu et vivre éternellement. Ainsi soit-il.